Mathilda 4, de Roald Dahl. La teinture blond platine. Il ne faisait aucun doute pour Mathilda que cette dernière manifestation de vilainie de son père méritait un sévère châtiment. Et elle resta assise à manger ses infectes saucisses graisseuses et ses frites rances, sans regarder la télévision, passant en revue diverses représailles possibles. Lorsqu'elle se mit au lit, sa décision était prise. Le lendemain matin, levée très tôt, elle alla s'enfermer dans la salle de bain. Les cheveux de Madame Vertdebois, nous le savons déjà, étaient teints d'un blond platine argenté, assez proche comme nuance de la couleur des collants d'un acrobate fil de feriste de cirque. La grande opération de teinture se déroulait deux fois par an chez le coiffeur, mais tous les mois environ, Madame Vertdebois se faisait un rinçage au-dessus de son lavabo avec un produit appelé teinture blonde platine extra forte. Ce produit lui servait également à décolorer les racines de ses cheveux en une espèce de marron jaunâtre. La bouteille de teinture était rangée dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain, et sous le nom du produit était écrit « Attention, produit à base d'eau oxygénée, ne pas laisser à la portée des enfants. » Mathilda avait lu bien des fois cet avertissement avec intérêt. Monsieur Vertdebois avait une tignasse noire qu'il partageait soigneusement en deux par une raie et dont il était spécialement fier. « À cheveux solides, cervelle de même » aimait-il déclarer. « Comme Shakespeare, lui avait dit un jour Mathilda. »«
Comme qui ?»«
Shakespeare, papa. » »«
C'était un gars futé ?»«
Très, papa. »
Il avait une vraie tignasse alors.
Il était chauve, papa.
Sur quoi le père avait aboyé? Si tu ne peux dire que des bêtises, boucle-la.
Quoi qu'il en soit, M. Vertdebois entretenait sa chevelure pour lui conserver son lustre et sa vigueur en la frictionnant abondamment chaque matin avec une lotion appelée tonique capillaire à l'huile de violette. Un flacon de cette mixture mauve odorante trônait en permanence au-dessus du lavabo de la salle de bain, à côté des brosses à dents. Et M. Vertdebois ne manquait jamais de s'embrasser le crâne avec énergie après s'être rasé. Cette friction s'accompagnait toujours d'un concert de grognements sonores, de halètements, d'exclamations étouffées. « Oh, oh, mou !» que Mathilda entendait clairement de sa chambre de l'autre côté du couloir. Donc seule et en sûreté dans la salle de bain, Mathilda dévissa le bouchon de la lotion à huile de violette, en vida les trois quarts dans le lavabo. Puis elle remplit le flacon avec la teinture blond platine extra forte de sa mère. Elle avait pris soin de laisser assez de tonique capillaire pour qu'une fois secoué, le liquide reprît une teinte mauve acceptable. Ensuite, elle replaça le flacon sur la tablette au-dessus du lavabo et rangea la teinture de sa mère dans l'armoire à pharmacie. Jusque-là, tout allait bien. Au petit déjeuner, Mathilda commença à manger ses cornflakes. En face d'elle, son frère, assis le dos à la porte, dévorait des tranches de pain tartinées d'un mélange de beurre de cacahuète et de confiture de fraises. Dans la cuisine, la mère préparait le petit déjeuner de M. Vertdebois, qui se composait invariablement de deux œufs frits sur du pain grillé, avec trois saucisses, trois tranches de bacon et quelques tomates. Ce fut alors que M. Vertdebois fit une tapageuse irruption dans la pièce. Il était d'ailleurs incapable d'entrer où que ce fût calmement, surtout à l'heure du petit déjeuner. Marquer son apparition par un bruyant remue-ménage était chez lui un besoin irrépressible. On l'entendait presque pérorer. « C'est moi le grand homme, j'arrive, moi le maître de maison, le gagneur qui fait de vous une vie de coq en pâte. Regardez-moi, inclinez-vous. » Ce matin-là, il arriva à grandes enjambées, tapa sur l'épaule de son fils et tonitrua. « Eh bien, mon garçon, ton père se sent fin prêt pour engranger le magot aujourd'hui au garage. J'ai un joli lot de bagnoles pourries à fourrier aux pigeons de ce matin. Où est mon petit déjeuner ?»« Il arrive, trésor !» lui lança Madame Vertdebois de la cuisine.
Mathilda, le nez baissé sur ses cornflakes, n'osait pas lever la tête. D'abord, elle n'était pas sûre du spectacle qui allait s'offrir à ses yeux. Ensuite, si elle voyait ce à quoi elle s'attendait, elle craignait de ne pouvoir rester impassible et de se trahir. Quant à son frère, il regardait par la fenêtre tout en continuant à s'empiffrer de tartines de beurre de cacahuète mélangées à de la confiture de fraises. Le père alla s'asseoir au bout de la table quand la mère fit son entrée, venant de la cuisine portant un vaste plateau surchargé d'œufs, de saucisses, de bacon et de tomates. Machinalement, elle leva les yeux, et ce qu'elle vit la figea. Puis elle laissa échapper un hurlement qui parut la soulever de terre et lâcha son plateau qui heurta le sol à grand bruit, tandis que son contenu s'éparpillait de tous côtés. Tout le monde sauta en l'air, y compris M. Vertdebois. « Mais qu'est-ce qui te prend, crétine ? Regarde-moi ce gâchis que tu as fait sur le tapis. »« Tes cheveux !» glapit la mère, pointant un index frémissant sur son mari. « Regarde tes cheveux ! Qu'est-ce que tu leur as fait à tes cheveux ?»«
Bien quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux, crénon ?» cria M. Vertdebois.
Oh, « Mon Dieu, papa, qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux ?» hurla le fils.
Un tohu-bohu merveilleusement cacophonique se déclencha dans la pièce. Mathilda, silencieuse, se contentait d'admirer le résultat de sa machination. La superbe chevelure noire de M. Vertdebois avait pris une couleur d'argent jauni, semblable à celle d'un collant d'un acrobate fil de feriste, qui aurait subi toute une saison de représentation sur le moindre lavage.
« Tu les as teints !» glapit la mère. « Pourquoi tu fais ça, pauvre idiot ? C'est horrible, ça fait peur à voir, tu as l'air d'un monstre !»
Mais qu'est-ce que vous me chantez tout, sacre Dieu ? Vociféra le père en portant les deux mains à ses cheveux. Je me suis pas teint du tout, vous avez des visions, ma parole. Qu'est-ce qui vous prend ? Vous vous payez de ma tête, peut-être ?
Son visage avait pris une teinte verte pâle couleur de pomme pas mûre.
Mais bien sûr qu'il les a teints, cria la mère. Ils n'ont pas changé de couleur tout seuls. Tu voulais t'embellir ou quoi ? Tu as tout d'une grand-mère bonne pour l'asile, tiens.
Qu'on me donne une glace, hurla le père. Restez pas là à brailler comme des possédés. Une glace, vite !
Le sac à main de Madame Vertdebois était posé sur une chaise à l'autre bout de la table. Elle l'ouvrit, en sortit un poudrier avec un petit miroir circulaire dans le couvert qu'elle tendit à son mari. Il s'en empara brusquement et le brandit devant lui, répandant les trois quarts de la poudre qu'il contenait sur son veston de tweed à carreaux.
« Attention !» hurla la mère. « Non mais regarde ce que tu fais ! La meilleure poudre de chez Elisabeth Arden !»«
Oh misère !» s'exclama le père, les yeux rivés sur le petit miroir.
« Qu'est-ce qui m'est arrivé ? C'est affreux ! J'ai l'air d'un échappé d'asile ! Je ne peux pas aller au garage et vendre des voitures avec une tête pareille ! Comment est-ce arrivé ?»
Il regarda autour de lui, d'abord la mère, puis le fils, et enfin Mathilda.
« Comment est-ce que ça va pu arriver ? » vociféra-t-il.
« Je suppose, papa, dit Mathilda d'un ton posé, que tu n'as pas fait très attention, et que tu as très simplement pris la teinture de maman sur l'étagère au lieu de ta lotion. »«
Mais oui, c'est sûrement ça, s'exclama la mère. Vraiment, Henri, comment peut-on être aussi bête ? Pourquoi n'as-tu pas regardé l'étiquette avant de t'asperger la tête ?
Ma teinture est terriblement forte. Je ne dois utiliser qu'une cuillerée à soupe dans une cuvette pleine d'eau. Et toi, tu as renversé ça complètement pur sur le crâne. Ça va sans doute faire tomber tous tes cheveux. Tu ne sens pas un début de picotement ou de brûlure ?
Quoi ? Tu veux dire que je vais perdre mes cheveux ? Hurla le mari.
J'en ai peur, dit la mère. L'oxygéné est un produit puissant. C'est ce qu'on met dans les toilettes pour nettoyer la cuvette, mais sous un autre nom.
Qu'est-ce que tu dis ? Hurla le mari. Je ne suis pas une cuvette de cabinet, je ne veux pas être désinfectée.
Même diluée, comme je l'utilise, reprit la mère. Ça me fait perdre pas mal de cheveux. Alors Dieu sait ce qui peut arriver au tien.
Et même, ça m'étonne que ça ne t'ait pas encore décapé tout le sommet du crâne. « Mais qu'est-ce que je vais faire ?» se lamenta le père. « Dis-moi vite ce que je dois faire avant que mes cheveux se mettent à tomber. »«
Moi, à ta place, dit Mathilda, je les laverai à fond, au savon et à l'eau. Mais il faut te dépêcher. »«
Et mes cheveux redeviendront noirs ?» demanda anxieusement le père.
« Bien sûr que non, Andouille, dit la mère.
« Alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas rester comme ça. »«
Tu n'as qu'à les teindre en noir, dit la mère. « Mais commence par les laver, sinon il n'en restera pas un seul à teindre. »«
C'est ça !» s'écria le père en bondissant prêt à l'action. « Prends-moi tout de suite un rendez-vous avec ton coiffeur. » Dis-lui que c'est urgent, il n'a qu'à déplacer une cliente. Maintenant, je monte me laver la tête.
Là-dessus, il sortit en trompe de la pièce. Et Madame Vertdebois, exhalant un profond soupir, alla téléphoner au salon de coiffure.
De temps en temps, elle fait des grosses bêtises, tu ne trouves pas, maman ? Dit Mathilda.
La mère, tout en composant le numéro sur le cadran, lui répondit.
J'ai peur que les hommes ne soient pas aussi malins qu'ils l'imaginent. Tu apprendras ça quand tu seras un peu plus grande, ma fille.
Mademoiselle Candy. Mathilda avait commencé ses études un peu tard. La plupart des enfants ont entre 4 et 5 ans lorsqu'ils entrent à l'école pour la première fois. Mais les parents de Mathilda, peu soucieux de l'éducation de leur fille, avaient oublié de faire les démarches nécessaires en temps voulu. Elle avait donc 5 ans et demi quand elle franchit le seuil de son école. L'école du village était une ingrate bâtisse de briques appelée École primaire La Minoire. Elle comptait environ 250 élèves âgés de 4 à 11 ans révolus. La directrice, la patronne, la toute souveraine puissante de l'établissement était une terrifiante matrone, Mademoiselle Le Gourdin. Naturellement, Mathilda avait été mise dans la plus petite classe en compagnie de 17 garçons et filles de son âge. Leur institutrice s'appelait Mademoiselle Candy et devait être âgée d'environ 23 ou 24 ans. Elle avait un ravissant visage ovale et pâle de madone avec des yeux bleus et une chevelure châtain clair. Elle était si mince et si fragile qu'on avait l'impression qu'en tombant, elle aurait pu se casser en mille morceaux comme une statuette de porcelaine. Mademoiselle Jennifer Candy était une personne douce et discrète qui n'élevait jamais la voix, que l'on voyait rarement sourire mais qui possédait le don exceptionnel de se faire adorer de tous les enfants qui lui étaient confiés. Elle paraissait comprendre d'instinct l'effarement et la crainte qui envahissent si souvent les petits entrant pour la première fois de leur vie dans une salle de classe et contraints d'obéir aux ordres reçus. Un chaleureux rayonnement, pour ainsi dire tangible, illuminait les traits de Mademoiselle Candy lorsqu'elle s'adressait à un nouveau venu, éperdu d'inquiétude arrivé dans sa classe. Mademoiselle Le Gourdin, la directrice, était d'une autre race. C'était une géante formidable, un monstrueux tyran qui terrorisait également élèves et professeurs. Même à distance, une aura de menace l'enveloppait et de près, l'on sentait les émanations brûlantes qu'elle dégageait comme une barre de métal chauffée à blanc. Lorsqu'elle fonçait, Mademoiselle Le Gourdin ne marchait jamais. Elle avançait toujours comme un skieur à longues enjambées en balançant les bras. Donc lorsqu'elle fonçait le long d'un couloir, on l'entendait toujours grogner et grommeler, et si un groupe d'enfants se trouvait sur son passage,
Elle chargeait droit dessus comme un tank projetant les petits de part et d'autre. Dieu merci, les fléaux de cette espèce sont rares en ce bas monde. Mais ils existent néanmoins, et tous nous risquons d'en rencontrer au cours de notre vie. Si jamais cela vous arrive, réagissez comme vous le feriez devant un rhinocéros enragé dans la brousse. Escaladez l'arbre le plus proche, et restez-y perché jusqu'à ce que tout danger soit écarté. Cette femme, avec toutes ses bizarreries et l'étrangeté de son aspect extérieur, est presque impossible à décrire. Néanmoins, je tenterai de vous faire son portrait un peu plus loin. Pour l'instant, abandonnons-la et revenons à Mathilda à sa première journée de classe dans la salle de Mademoiselle Candy. Après avoir vérifié selon la coutume les noms de tous les enfants, Mademoiselle Candy tendit à chacun d'eux un cahier tout neuf. « J'espère que vous avez tous apporté vos crayons, » dit-elle. « Oui, Mademoiselle Candy, » répondirent-ils en chœur. « Parfait, c'est donc le premier jour de classe pour chacun d'entre vous. » Autrement dit, le commencement d'au moins 11 longues années d'études que vous aurez tous à suivre. Et 6 de ces années, vous allez les passer ici, à l'école Laminoir, dont, comme vous le savez, la directrice est Mademoiselle Legourdin. Que je vous prévienne tout de suite à propos de Mademoiselle Legourdin. Elle fait régner une discipline très stricte dans l'établissement. Et si vous voulez un conseil, ayez toujours devant elle une conduite irréprochable. Ne discutez jamais avec elle. Ne lui répondez jamais. Faites tout ce qu'elle vous dira de faire. Sinon, elle aura tout fait de vous réduire en bouillie comme une patate dans un mixeur. Ça n'a rien de drôle, Anémone. Ne ris pas comme ça. Rappelez-vous bien, Mademoiselle Legourdin a d'une sévérité terrible avec quiconque enfreint la règle dans cette école. Avez-vous tous bien compris ? Oui, Mademoiselle Candy, gazouillèrent avec conviction 18 petites voix. Quant à moi, poursuivit-elle, je vous aiderai de mon mieux à apprendre le plus possible tant que vous serez dans cette classe. Parce que je sais que cela facilitera la suite de vos études. Pour commencer, je compte sur vous pour savoir tout par cœur, à la fin de la semaine, tous, votre table de multiplication par 2. Et dans un an, j'espère que vous saurez toutes les tables de multiplication jusqu'à celle de 12. Cela vous rendra de grands services. Maintenant, y en a-t-il parmi vous qui ont déjà appris la table de multiplication par 2 ? Mathilda leva la main. Elle était la seule. Mademoiselle Candy considéra avec attention la minuscule fillette aux cheveux noirs et au visage si sérieux assise au deuxième rang. « C'est parfait, » dit-elle, « lève-toi et récite la table, je t'écoute. » Mathilda se mit debout et commença à réciter la table de 2. Arrivée à 2 fois 12, 24, elle n'en resta pas là et poursuivit avec 2 fois 13, 26, 2 fois 14, 28, 2 fois 15, 30, 2 fois 16, « Arrête !» lui dit Mademoiselle Candy. Elle avait écouté ce paisible récital comme légèrement envoûtée. Elle demanda « Jusqu'où peux-tu aller ?»« Jusqu'où ?» dit Mathilda. « Mais je ne sais pas, Mademoiselle Candy. Encore assez loin, je crois. » Mademoiselle Candy resta un instant rêveuse devant cette surprenante réponse. Puis elle reprit « Pourrais-tu par hasard me dire combien font 2 fois 28 ?»« Oui, Mademoiselle Candy. Et cela fait 56, Mademoiselle Candy. » « Voyons. Une question bien plus difficile. Par exemple, 2 fois 487, tu peux me le dire ?» « Je pense, oui, » dit Mathilda. « Tu es sûre ?»« Mais oui, Mademoiselle Candy, presque sûre. Alors, combien font 2 fois 487 ?»« 974, » répondit Mathilda sans hésiter. Elle parlait d'un ton égal et poli, sans le moindre signe de vanité. Mademoiselle Candy dévisagea Mathilda sidérée, mais ce fut d'un ton neutre qu'elle lui dit. « C'est remarquable, bien sûr, mais la multiplication par 2 est beaucoup plus facile qu'avec les chiffres plus élevés. Alors, les autres tables de multiplication, en connais-tu quelques-unes ?» « Je crois, Mademoiselle Candy, oui, je crois bien. »« Lesquelles ?» demanda Mademoiselle Candy. « Jusqu'où es-tu allée ?»« Je ne sais pas trop, » répondit Mathilda. « Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire. »« Bien, entre autres, connais-tu la table des 3 ?»«
Oui, Mademoiselle Candy. »«
Et celle des 4 ?»«
Oui, Mademoiselle Candy. »«
Voyons, combien en connais-tu, Mathilda ? Les sais-tu toutes jusqu'à la table de 12 ?»«
Oui, Mademoiselle Candy. »«
Combien font 12 fois 7 ?»«
84. »
Mademoiselle Candy poussa un soupir et se laissa aller contre le dossier de sa chaise, derrière la table de bois nu disposée au centre de la salle en face des élèves. Elle était profondément troublée par cet intermède, mais se garda de le montrer. Jamais elle n'avait rencontré d'enfant de 5 ans ou même de 10 capable de faire des multiplications avec une telle aisance. « J'espère que vous avez tous bien écouté, » dit-elle, s'adressant aux autres élèves. « Mathilda a beaucoup de chance. Elle a des parents merveilleux qui lui ont déjà appris à multiplier les chiffres. C'est ta maman, n'est-ce pas, Mathilda, qui t'a appris à compter ?»
« Non, Mademoiselle Candy, ce n'est pas elle. »«
Alors tu dois avoir un père épatant. Quel bon professeur il doit faire. »«
Non, Mademoiselle Candy, » répondit calmement Mathilda.
« Mon père ne m'a rien appris. »«
Tu veux dire que tu as appris toute seule ?»«
Je ne sais pas vraiment, » dit Mathilda avec sincérité. «
Simplement, je ne trouve pas très compliqué de multiplier un nombre par un autre. » Mademoiselle Candy prend une profonde inspiration et exhala un long soupir. Elle regarda de nouveau la petite fille aux yeux brillants, si solennelle et si raisonnable à son pupitre. « Tu dis que ce n'est pas difficile de multiplier un nombre par un autre. Si tu essayais de m'expliquer ce que tu veux dire. « Oh, mon Dieu, fit Mathilda, c'est que je ne sais pas trop comment. » Mademoiselle Candy attendait. Toute la classe silencieuse écoutait. « Par exemple, reprit Mademoiselle Candy, si je te demandais de multiplier 14 par 19. Non, c'est trop difficile. « Ça fait 266, dit Mathilda d'une voix douce. Mademoiselle Candy la regarda fixement, puis elle prit un crayon et fit une rapide multiplication sur un bout de papier. « Combien as-tu dit ? » demanda-t-elle en levant les yeux. « 266, répéta Mathilda. Mademoiselle Candy posa son crayon, ôta ses lunettes qu'elle se mit à essuyer avec un coin de son mouchoir. La classe, toujours muette, l'observait attendant la suite. Mathilda se tenait toujours debout à côté de son pupitre. « Voyons, Mathilda, poursuivit Mademoiselle Candy, tout en continuant à essuyer ses lunettes. Pourrais-tu me dire ce qui se passe dans ta tête quand tu fais une multiplication comme celle-là ? Il faut bien que tu passes par un raisonnement quelconque, même si tu donnes le résultat presque immédiatement. Prenons celui que tu viens de calculer, 14 fois 19. Je pose simplement le 14 dans ma tête, je le multiplie par 19, dit Mathilda. J'ai une peur de ne pas pouvoir expliquer comment. Je me suis toujours dit que si une calculette de poche pouvait le faire, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas, en effet, dit Mademoiselle Candy. Le cerveau humain est un appareil étonnant. Je crois qu'il vaut bien mieux qu'un bout de métal, dit Mathilda. Une calculette, ce n'est rien d'autre. Comme tu as raison, approuva Mademoiselle Candy. D'ailleurs, les calculettes ne sont pas autorisées à l'école. Mademoiselle Candy se sentait quelque peu désorientée. Elle ne doutait pas un instant d'avoir rencontré une sorte de génie mathématique. Et l'expression « enfant prodige » s'imposait à elle. Elle savait que les phénomènes de ce genre font leur apparition de loin en loin en ce bas monde. Pas plus d'une ou deux fois par siècle. Après tout, Mozart n'avait que 5 ans quand il a composé sa première pièce pour piano. Et voyez ce qu'il était devenu. « C'est pas juste, dit Anémone. Comment elle peut le faire et pas nous ?»« Ne t'inquiète pas, Anémone, dit. Tu la rattraperas bientôt, dit Mademoiselle Candy. » Ne reculant jamais devant un mensonge pur. Là-dessus, Mademoiselle Candy ne put résister à la tentation d'explorer plus avant l'esprit de cette prodigieuse petite fille. Elle savait qu'elle devait s'occuper aussi du reste des élèves, mais elle était trop surexcitée pour se détourner d'un sujet aussi passionnant. « Allons, dit-elle, feignant de s'adresser à la classe entière. Laissons les chiffres pour un moment, voyant si l'un de vous a commencé à apprendre à épeler. Que celui qui peut épeler chat lève la main. » 3 mains se levèrent. C'était celle d'Anémone, un petit garçon nommé Victor et de Mathilda. « Épelle chat, Victor. » Victor épela sans se tromper. Mademoiselle Candy décida alors de poser une question qu'en temps normal, elle n'aurait jamais envisagé de poser un premier jour de classe. « Je me demande, dit-elle, si l'un de vous trois qui savait épeler chat a appris à lire un groupe de mots, lorsqu'ils sont assemblés pour former une phrase. « Moi, dit Victor. Moi aussi, dit Anémone. » Mademoiselle Candy alla au tableau avec un bâton de craie et l'écrivit. « J'ai déjà commencé à apprendre à lire de longues phrases. » Elle aurait volontairement écrit une phrase compliquée, savait que bien rares étaient les enfants de 5 ans capables de la lire. « Peux-tu me dire ce qui est écrit, Victor ?» demanda-t-elle. « C'est trop dur pour moi, dit Victor. Anémone ?»« Premier mot est je, dit Anémone. L'un de vous peut-il lire la phrase complète ?» demanda Mademoiselle Candy, attendant le oui qui ne pouvait manquer de venir aux lèvres de Mathilda. « Oui, dit Mathilda. Vas-y, dit Mademoiselle Candy. » Mathilda lut la phrase en nombre d'une hésitation. « Pas mal, dit Mademoiselle Candy, proférant le plus bel euphémisme de sa carrière. Qu'est-ce que tu es capable de lire, Mathilda ?»« Je crois que je peux lire presque tout, Mademoiselle Candy, répondit Mathilda. Mais j'ai peur de ne pas toujours comprendre ce que ça signifie. » Mademoiselle Candy se leva, sortit d'un pas vif de la classe et revint 30 secondes plus tard tenant un gros volume. Elle l'ouvrit au hasard et le plaça sur le pupitre de Mathilda. « C'est un livre de poésie légère, dit-elle. Voyons, si tu en peux lire une à voix haute. » D'une voix bien modulée, sur un rythme égal, Mathilda récita. Un fameux gourmet qui dînait à Pise trouva dans sa soupe une souris grise. « Motus !» lui souffla le garçon futé. « Sinon, tout le monde va m'en réclamer. » Plusieurs enfants, sensibles au comique de la scène, se mirent à rire. Mademoiselle Candy demanda. « Sais-tu ce que c'est qu'un gourmet, Mathilda ?»« C'est quelqu'un qui aime les bonnes choses à manger. »« Exact, » dit Mademoiselle Candy. « Et sais-tu par hasard comment s'appelle ce petit poème ?»« C'est un quatrain, dit Mathilda. Celui-ci est très amusant. » « Il est assez connu, dit Mademoiselle Candy en reprenant le livre en allant se rasseoir à sa table. « Un quatrain spirituel demande beaucoup de talent. Ça paraît facile, mais c'est tout le contraire. »« Je sais, dit Mathilda. J'ai essayé d'en faire plusieurs fois, ils sont pas fameux. »« Tu as essayé, vraiment ?» s'étonna Mademoiselle Candy, plus éberluée que jamais. « Écoute, Mathilda, j'aimerais beaucoup entendre un de tes quatrains. Pourrais-tu nous en dire un dont tu te rappelles ?
Eh bien, fit Mathilda hésitante, à vrai dire, j'ai essayé d'en faire un sur vous, Mademoiselle Candy, pendant qu'on était tous ici.
Sur moi ? S'exclama Mademoiselle Candy. Alors celui-là, je tiens absolument à l'entendre, d'accord ?
Je n'ai pas très envie de le réciter, Mademoiselle Candy.
S'il te plaît, pour me faire plaisir, je te promets de pas t'en vouloir.
Justement, j'en ai peur parce que j'ai employé votre petit nom pour la rime et c'est pour ça que ça m'ennuie de le dire.
Comment connais-tu mon petit nom ? Demanda Mademoiselle Candy.
J'ai entendu une autre maîtresse qui vous parlait avant qu'on entre dans la classe, dit Mathilda. Elle vous a appelé Jenny ?
J'insiste pour entendre ton quatrain, dit Mademoiselle Candy, esquissant un de ses très rares sourires. Lève-toi et récite-le.
À contre-cœur, Mathilda se leva, et d'une voix lente, altérée par la nervosité, elle récita son quatrain. Chacun se dit, voyant Jenny, est-il possible qu'on trouve ici, dame au visage aussi joli, pas une, je vous le parie.
Le charmant et pâle visage de Mademoiselle Candy s'empourpra de la gorge au front. À nouveau, un sourire lui vint aux lèvres, un sourire beaucoup plus épanoui, un sourire de pur plaisir.
Merci, merci, Mathilda, dit-elle ravie. Bien qu'il ne raconte rien de vrai, c'est un très bon quatrain.
Mon Dieu, faut que je me rappelle.
Du troisième rang de la classe, Anémone déclara. C'est drôlement bien, j'aime beaucoup.
Et en plus, c'est vrai, appuya un petit garçon nommé Robert. Tu parles que c'est vrai, approuva Victor.
Déjà, Mademoiselle Candy avait gagné la confiance et la sympathie de toute la classe, alors qu'elle n'avait jusque-là guère prêté attention qu'à Mathilda.
Qui t'a appris à lire, Mathilda ? Demanda-t-elle.
Oh, j'ai appris toute seule, Mademoiselle Candy.
Et tu as lu des livres pour ton plaisir à toi, des livres d'enfants, je veux dire.
J'ai lu tous ceux qu'on peut trouver à la bibliothèque publique de la Grande Rue, Mademoiselle Candy.
Tu les as aimés ?
Certains, je les ai aimés beaucoup, oui, répondit Mathilda, mais j'en ai trouvé d'autres bien ennuyeux.
Cite-moi un qui t'ait vraiment plu.
L'île au trésor, dit Mathilda.
Je crois que M. Stevenson est un très bon écrivain, mais il a un défaut, il n'a pas de passage drôle dans son livre.
Peut-être bien, dit Mademoiselle Candy.
Il n'y en a pas non plus beaucoup chez M. Tolkien, dit Mathilda.
Crois-tu qu'il devrait y avoir des moments drôles dans tous les livres d'enfants ? Demanda Mademoiselle Candy.
Oui, répondit Mathilda. Les enfants ne sont pas aussi sérieux que les grandes personnes et ils aiment rire.
Mademoiselle Candy, confondue encore une fois par la sagesse de cette si petite fille, lui demanda. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as lu tous les livres d'enfants ?
Je lis d'autres livres, répondit Mathilda.
Je les emprunte à la bibliothèque. Madame Folio est très gentille avec moi. Elle m'aide à les choisir.
Mademoiselle Candy, penchée en avant par-dessus la table, considéra longuement Mathilda d'un air rêveur. Elle avait cette fois totalement oublié les autres élèves.
« Quel livre ?» murmura-t-elle.
« J'aime énormément Charles Dickens, dit Mathilda. Il me fait beaucoup rire, surtout Monsieur Pickwick. »
À cet instant, dans le couloir, la cloche sonna à la fin de la classe.